gagner, c'est ce truc ponctuel, voire extraordinaire, mais qui n'est que momentané. La réussite, c'est sur le parcours. C'est-à-dire qu'il y a plein, il y avait un entraîneur national qui avait dit ça à un athlète et qui lui avait dit, ben tiens, si on travaille ensemble, c'est quoi le but ? Bah, c'est de gagner. Il dit, mais gagner, tu sais déjà faire. Oui, et ben moi, ce que je vais t'apprendre, c'est pas à gagner, c'est à réussir ta vie. Et que tu gagnes ou que tu gagnes pas, le but, c'est de réussir ta vie.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe dans la chronique Ton Mental à la Loupe. Comme vous le savez, nous sommes le premier mardi du mois de mars. Qui dit premier mardi du mois de mars dit nouvel épisode avec Jonathan Bellegros. Salut Jonathan.
Salut à tous les deux.
Salut Jérôme. Bonjour, bien évidemment, toujours présent. Et là, on va attaquer la troisième phase, justement, des freins à la performance. On vous en parlait la dernière fois, on a déjà fait effectivement pas mal de choses et notamment la peur de l'échec. Mais quand il y a la peur de l'échec, il y a aussi potentiellement la peur de réussir.
Tout à fait.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas quand on se dit « bah non, on a tous envie de réussir ». Mais au final, on peut quand même se mettre des freins parce que quand on réussit, l'après peut être compliqué.
Bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Ben là, par exemple, je pourrais avoir la peur de le réussir en me disant « mince, mais est-ce que… Si je réussis, est-ce que ça peut pas trop plaire aux auditeurs ? Est-ce que ça peut pas leur donner trop de pistes pour remettre en question leur entraînement, leur performance, peut-être même leur vie, en fait ? Bah donc, peut-être que je vais rester un peu le pied sur le frein, pas trop donner, voire même avoir la possibilité que les auditeurs nous demandent d'en savoir plus et faire un autre épisode dessus, et quitte à faire de celui-là un épisode un peu moyen. Alors évidemment, c'est pas le but. Hein.
Non, on va vraiment vous donner effectivement les éléments. Mais ça voudrait dire qu'en fait, on n'a pas trop envie de solliciter le côté. Enfin, quand on dit réussir, c'est si je donne trop effectivement, va y avoir un espèce de chamboulement par la suite. Ou d'un seul coup, c'est ah mais donc du coup, je vais être attendu au tournant. Ou en fait, il y a quelque chose et d'un seul coup, on se dit « Ouais, mais en fait, du coup, je ne peux pas redescendre d'un certain endroit où j'ai été. »
Eh bien, c'est un peu tout ce que tu as évoqué. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la peur de réussir, quand on va au bout d'un projet, on va au bout d'une histoire. Et cette histoire-là, à un moment donné, ce chapitre ou ce livre doit se terminer. Donc, il va falloir apprendre à vivre sans le rêve. Si un athlète a construit son chemin pendant 10 ans, 15 ans sur une réussite, le moment où il réussit, ça y est, c'est terminé, c'est fini.
Ah, ok. C'est quand on arrive vraiment à ce point d'apogée et là, on se dit bah, peut-être que j'ai plus de but ou en tout cas, j'ai atteint quelque chose.
Exactement.
Je pourrais pas aller au-dessus et potentiellement plus, c'est que ce point-là m'apporte aussi des choses pour lesquelles j'étais pas préparé.
Exactement. C'est-à-dire que d'une part, il faut se confronter ou en tout cas se préparer à l'après pour pouvoir se dire bah tiens, si je réussis ma compétition ou si j'ai réussi mon projet, eh ben la vie continue après. Et en même temps, quelle vie continue après ? Puisque quand on réussit, je prends l'exemple d'un champion qui remporte un immense tournoi ou qui va à l'apogée de sa carrière, sa vie change le lendemain. C'est-à-dire que là où il n'attirait pas de regard, il va en attirer. Là où il attirait peut-être moins de médias, il va en avoir de plus en plus. Voire même, il ne pourra plus aller acheter sa baguette de pain tout seul chez le boulanger.
Et du coup, est-ce que certains athlètes, par peur d'être trop exposés, inconsciemment, ne se donnent pas les moyens de réussir, tu penses ou...
Exactement.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Ouais. Exactement. Ouais. Et en plus, tu utilises un bon mot, parce que je pense que c'est inconsciemment, dans le sens involontaire.
Oui, personne ne veut pas réussir, en fait.
Tu vois, ouais. Tu peux, effectivement, lier à l'apprentissage de la réussite, par exemple, te dire, bah, tu sais, si enfant ou si plus jeune ou dans ton parcours, tu as appris que réussir, c'est être au centre de l'attention et qu'être au centre de l'attention, ben, c'est pas génial quand même. Voir
certains aiment bien, mais d'autres non en fait.
Ouais.
Mais si, je pense qu'on n'est jamais préparé en plus à ce genre de choses.
Non, bien sûr que non. En plus de ça, si on te dit, ben, si tu es au centre de l'attention, tu te la racontes un peu quand même.
Il y a ça aussi. Ouais.
Après, il y a beaucoup de jalousie aussi, entre guillemets. Enfin, ça peut pousser à la jalousie également en dessous, parce que ce qui attire l'attention, l'œil, ces réussites que l'on voit partout aussi, elles suscitent beaucoup de choses. Il faut prendre le positif, mais il y a aussi beaucoup de négatifs.
Exactement. Ce que je vais appeler plutôt que positif et négatif, qui est un peu connoté, négatif, tu vois, en gros, c'est on n'en veut pas. Mm-hmm. C'est plutôt des avantages et des inconvénients, des bénéfices et des inconvénients. Des inconvénients, tu vois, il y en a. Il y en a dans tout changement. Réussir, c'est effectuer un changement. Il y a un changement dans la vie. Et comment est-ce que ça se réfléchit avant de pouvoir, justement, pour lever ces freins inconscients ou involontaires, eh ben, c'est de réfléchir aux conséquences de ce changement-là avant qu'il ait lieu. Je donne cet exemple-là, mais c'est se poser la question, si tu réussis, là, ce que tu entreprends pour dans 6 mois ou pour les Jeux Olympiques ou pour dans 4 ans, les prochains Jeux, c'est quoi les avantages? Ça, ok, on arrive assez facilement à le voir, sinon on ne serait pas engagé.
C'est vrai.
Mais voilà, c'est quoi les inconvénients qu'il pourrait y avoir? Imaginons que tu réussisses, qu'est-ce qui te manque le lendemain? De qui tu te rapproches? Quel genre de personne te manque? Quelles activités vont te faire défaut, seront plus compliquées? Qu'est-ce que ça va créer comme engagement, comme responsabilité aussi? Et envisager le changement d'écosystème, donc on va parler d'écosystème, le changement des relations, les relations qu'on va avoir, les relations le mode de vie qu'on va avoir, l'anticiper avant permet de déjà déjouer les freins et lever des barrières, c'est-à-dire se dire ben ok, si je réussis, ben on va porter beaucoup plus d'attention sur moi. Et ok, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben ça me gêne un peu. Ok, comment t'aimerais faire? Eh ben je pense que déjà ça me dérange déjà aujourd'hui un peu, donc je vais porter mon attention dessus pour faire en sorte que ça me corresponde et que ça s'équilibre bien. Et du coup on n'est pas surpris, on évite la surprise. D'accord. De l'après. Maintenant, ça c'est quand on travaille plutôt sous la forme de l'anticipation, mais potentiellement, quelqu'un qui voudrait réussir, on va lui demander, toi la réussite, tu veux la première place, tu veux briller, qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui t'empêche pour l'instant? La première réponse, généralement, c'est rien.
Ben, évidemment.
Mais Tu fais quoi après? Ou alors qu'est-ce que tu te racontes sur la réussite? Et là, des fois, un athlète va pouvoir, je prends l'athlète, mais ça peut être n'importe qui, hein, qui se dit, en fait, pour moi, la réussite, c'est le bout de quelque chose, et le bout de quelque chose, c'est le vide, et le vide, c'est un peu comme la mort. Et souvent, avec les athlètes, on parle de la petite mort du sportif.
Tout à fait, on avait parlé d'ailleurs avec Camille Serm, un de nos tout premiers podcasts, justement, et notamment quand ils prennent leur retraite, par exemple, parce que c'est aussi le bout de, la fin d'un cycle, ouais, de vie, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui parlent, mais en fait, tu as fait tout ce qu'il fallait, et maintenant, d'un seul coup, tu n'as rien, tu n'es plus forcément sous les feux des projecteurs. Et il y a ce côté, la réussite, ok, je l'ai atteint, mais là, d'un seul coup, effectivement, comme tu le dis, c'est un vide.
C'est un vide.
Justement, il y en a beaucoup qui pensent long terme et qui anticipent. Cela, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de reconversions, mais certains la subissent. Et on en a vu beaucoup, des sportifs, notamment dans le foot, dans ces grands sports de notoriété, qui ont d'un seul coup... Il n'y a pas une dépression qui arrive, mais un petit peu quand même, ou d'un seul coup, on perd tout, quoi.
Bien sûr. Tu parles du foot. Moi, je me suis formé auprès du CIO, le Comité International Olympique sur la santé mentale des athlètes. Et les stats qu'on nous a données, c'est 36% des footballeurs sont en dépression après une réussite. Et une fois qu'ils ont pris leur retraite, 10 ans après, il y en a encore 16% qui sont toujours en dépression. Et ça se présente sous différentes formes, notamment l'alcoolisme, l'addiction au jeu, des choses comme ça. Donc il y a un vrai point. En gros, 16%, c'est presque c'est un joueur sur une équipe, quoi.
Mais c'est beaucoup, hein, dans tous les cas.
Bien sûr, c'est énorme. Donc, et ça, c'est,
mais c'est pas
c'est
si
l'effet...
surprenant malgré tout.
Non, et ça, mais ça, c'est l'effet de cette petite mort. C'est-à-dire qu'en gros, on se conditionne pour réussir. Et on construit même des phrases type Si je réussis ça, moi, j'ai réussi ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là ?
Alors, moi, je suis entièrement d'accord. Parce qu'on a déjà la réussite pour chacun, ne serait-ce que pour nous trois, par exemple, là, on n'aurait pas la même définition de la réussite. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas, on n'en verrait pas le même bout.
Bien sûr. Mais...
Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas, ça. La réussite, c'est quoi la réussite ? Pour certains, ça va être certaines choses. Pour d'autres, ça va être d'autres choses. Et certains, enfin, pour certains, ta réussite ne va pas être la mienne, par exemple.
Bien sûr. En plus de ça, je reviendrai là-dessus pour revenir sur une définition de la réussite, moi, qui me plaît bien. Mais pour revenir sur l'idée de si je réussis ça, ce championnat ou cette compète, j'ai réussi ma vie. Inconsciemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma vie, elle est terminée. J'ai réussi ma vie, donc on est arrivé à la fin de la vie. Et pour le cerveau, d'un coup, il se dit, la fin, j'ai réussi ma vie, ça veut dire que la vie est terminée. Donc,
potentiellement, je te laissais quelques années de plus quand même.
Moi, j'envisageais un peu les choses autrement. Tant qu'à faire, autant pas arriver au bout de notre vie et pas réussir notre vie. Autrement dit, autant continuer à être numéro 2, numéro 3, numéro 4. Parce que si la vie est terminée, derrière, c'est la mort. Et donc, il peut avoir ce frein qui est construit sur... un décalage entre deux notions qui sont importantes. Gagner et réussir. Gagner, c'est ce truc ponctuel, voire extraordinaire, mais qui n'est que momentané. La réussite, c'est sur le parcours. C'est-à-dire qu'il y a plein... Il y avait un entraîneur national qui avait dit ça à un athlète et qui lui avait dit, si on travaille ensemble, c'est quoi le but ? C'est de gagner. Il dit, mais gagner, tu sais déjà faire. Oui. Et moi, ce que je vais t'apprendre, c'est pas à gagner, c'est à réussir ta vie. Et que tu gagnes ou que tu gagnes pas, le but, c'est de réussir ta vie. Et donc, je reviens sur la définition de la réussite qui, moi, me plaît beaucoup.
Vas-y, donne-nous.
On va partir vite fait un peu sur de la philo. Sur Montaigne. Alors, Montaigne, compliqué à lire, Montaigne, pas facile, mais André Comte-Sponville l'a très bien repris dans son dictionnaire amoureux de Montaigne. C'est un gros pavé aussi, mais c'est beaucoup plus compréhensible. Et Montaigne, il nous explique que réussir sa vie, ça ne peut pas se faire tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de sa vie. C'est-à-dire que la vie ne peut être réussie qu'en étant été vécue.
En gros, le bilan, il se fait vraiment juste à la fin. Il n'y a pas de réussite intermédiaire.
Et ce bilan-là, il se fait par... un maximum de vie heureuse, et une vie heureuse, ça se définit par une vie avec le moins de malheur possible. Donc, autrement dit, une vie avec le moins de malheur possible est une vie réussie, chez Montaigne.
Oui, parce que c'est pas aussi simple dans la vie de tous les jours.
C'est pas aussi simple, mais pour avoir une vie heureuse, pour être heureux, que je gagne ou que je perde en compétition, pour être heureux, il faut avoir été malheureux. Sinon, on pourrait pas le connaître. On ne pourrait pas connaître le bonheur et être le fait d'être heureux si on n'a pas été malheureux. Seuls les malheureux peuvent connaître le bonheur.
Vice-versa.
Et donc, ces deux notions sont indissociables. Maintenant, que je gagne ou que je perde, je peux des fois gagner, des fois perdre, et quand même réussir ma vie, quand même réussir mon parcours, du moment que j'arrive à mieux assimiler les moments où je suis malheureux, autrement dit par exemple les moments où je perds, et à bien profiter et bien avoir conscience du bonheur que je ressens lorsque je gagne.
Justement, si tu me dis qu'il faut avoir été malheureux pour connaître le bonheur, est-ce que des sportifs qui gagnent presque tout le temps, ils sont vraiment heureux ou pas ?
Eh bien, des fois non, parce qu'en fait c'est des fois ceux qui vont être le plus malheureux une fois que leur carrière sera terminée. Donc ils connaîtront sans doute un peu de malheur, en tout cas je leur souhaite le moins de malheur possible, mais je leur souhaite du malheur quand même pour pouvoir être heureux, bizarrement.
D'accord.
On apprécie les choses à ce moment-là aussi.
Bien sûr. C'est,
tout comme une réussite, on l'apprécie parce qu'on a échoué avant. Et ça, on l'expliquait dans un autre épisode.
Si je prends un exemple concret, c'est quand même Teddy Riner qui gagne depuis 10-15 ans, gagne quasiment tout le temps.
Oui.
Oui, mais il n'a pas fait que gagner non plus.
Mais il n'a pas fait que gagner. Oui.
C'est aussi la différence. C'est comme par exemple si on prend un Djoko au tennis. Ben non, en fait, il n'y a pas eu que ça. Parce qu'à un moment, ils sont aussi passés sur des échecs. Certes, peut-être quand ils étaient plus jeunes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un certain point qu'ils ne l'ont pas vécu avant.
Et puis, il y a eu des blessures. Il y a eu quand même des remises en question. Ce qu'on voit sur le côté mainstream, c'est la gagne. Mais les moments de doute et de complications, de genoux, de perte de poids, tout ça, ce ne sont pas des moments très, sans doute très heureux, mais c'est des moments qui rendent plus heureux le moment des réussites et des médailles. Donc,
c'est pour ça qu'on les voit pleurer quand ils gagnent.
Ouais, bien sûr.
Non, mais c'est de l'émotionnel, hein, de toute façon.
Bien sûr. Pour moi, il y a un extrait qui est très parlant de ça. C'est David Douillet qui est interviewé après la médaille et le journaliste lui demande, ben voilà, cette médaille, elle représente quoi ? Puis lui, il l'exprime très bien. Il dit, ben, ça représente tout. Et puis surtout, quand on gagne la médaille, ça justifie. Ça justifie tout. Et le journaliste lui demande, mais ça justifie quoi, tout ? Il dit, ça justifie les absences. Ça justifie les blessures, ça justifie les sacrifices, et là il pleure. Et moi je pleure aussi à ce moment-là, même quand je revois encore cette interview.
C'est touchant.
Parce qu'en fait, c'est. Gagner demande des exigences, parfois des sacrifices, parfois des choix, ça dépend des athlètes. Mais il y a des inconvénients à vouloir gagner, et il y a des inconvénients à vouloir réussir. Mais l'objectif, ça doit être surtout de gagner le plus souvent possible. Mais pour réussir, le bilan, on le fera après. Parce que si on dresse un bilan sur la réussite d'une vie sur 30 ans de carrière, c'est court et ça met énormément de pression. Parce qu'une vie, aujourd'hui, on vit beaucoup plus que ça.
On l'espère tout au moins.
On l'espère. Donc ça laisse quand même presque un tiers de la vie à parcourir, parcouru, sur lequel il faudrait absolument réussir sa vie là-dessus. Et les deux autres tiers derrière. Donc, c'est ce dont on a besoin pour se dégager de la peur de la réussite, c'est de se donner de l'espace et de différencier gagner, réussir, de différencier les avantages et les inconvénients de gagner et de réussir. Et puis, plus que ça, c'est se rappeler d'une phrase, alors elle est un peu mainstream maintenant, mais l'important n'est pas le sommet, c'est le chemin pour arriver au sommet.
Tout à fait. Donc, moi, je l'aime beaucoup, celle-ci, parce que c'est vrai, comme on le dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que ce soit personnellement ou professionnellement, ou en tout cas dans tout dans quoi on s'engage, où on a envie de se projeter à un moment ou un autre. C'est une vraie aventure. De toute façon, la vie est une aventure. C'est une aventure semée d'embûches, de bons moments, de tout. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord sur à la fin, quand je pense qu'on est avec plein de rides, tout ça, et qu'on refait un bilan un peu de sa vie, de tout ce qu'on a parcouru, et c'est à ce moment-là, je pense aussi qu'on se rend compte de certaines choses, que ce soit à titre professionnel ou personnel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment aussi, ces deux-là s'entrechoquent. Par exemple, quand on voit effectivement ces grands gagnants, il y a aussi le côté perso qu'on ne voit pas, où il peut se passer aussi plein de choses. Et des fois, justement, la réussite du côté professionnel peut être plus exponentielle parce que, par exemple, il y a eu des malheurs aussi dans la vie perso, vice-versa. Enfin, pour moi, ça, tout se complète, en fait.
Bien sûr. Et une réussite, en tout cas une compétition, ne vient pas forcément nous définir. On en avait déjà parlé sur sortir de l'identification.
Tout à fait.
Mais c'est se dire que si je suis médaillé olympique, derrière, je suis aussi d'autres choses. Après, moi, il m'est arrivé des fois de croiser d'anciens champions, tu sais, mais beaucoup plus âgés, presque sur leur fin de vie, et, ou alors de regarder des interviews. Il n'y en a aucun qui dit si jamais je pouvais, là, je donnerais absolument tout pour revivre encore une petite compète, tu vois. Ce moment-là, si je pouvais revenir dans ma vie, si j'avais l'opportunité, avec un coup de baguette magique, de revivre un moment et de changer quelque chose, c'est rare qu'ils disent, moi, j'irai prendre cette médaille. Généralement, ils disent, en fait, je passerai plus de temps avec mes proches, je passerai plus de temps avec mes amis, avec ma famille, je donnerai plus de câlins. Donc, mis en perspective, ça recadre beaucoup de choses. Néanmoins, attention, pour les athlètes de haut niveau, des fois, ça, c'est pas entendable et je comprends. Parce qu'ils sont là, le couteau entre les dents, en se disant, là, dans 6 mois, moi, je veux tout casser. Et ils ont raison. Mais il faut juste qu'ils se rappellent qu'après, il y a une suite et que la vie ne se termine pas là.
Moi, j'ai une question concrète pour toi, le préparateur mental. Donc, quand un athlète a cette peur de réussir, comment concrètement on l'élimine dans le travail de préparation mentale ? Comment est-ce qu'on travaille ça ?
Parce que c'est très inconscient, hein, quand même.
Alors, pour toute la partie inconsciente de qu'est-ce qui a été encodé, tu vois, derrière la réussite, par exemple, si tu réussis, t'es visible et être visible, ben, tu sais, pour être heureux, ils vont cacher. Et si ça a été, si ça fait partie de ce qu'on appelle des drivers, un peu des codes moraux, familiaux ou éducatifs, bon, ben, on va plutôt travailler sur cette partie-là, notamment avec l'hypnose, pour revenir et pour transformer la subjectivité liée à ça. Si c'est plutôt lié à, aux perspectives de la réussite, à l'après. L'après-réussite, bah du coup, mais j'ai un grand vide. Ok, bah on va chercher à combler ce vide. Ce n'est pas moi qui vais combler ce vide. Ce n'est pas mon rôle. Mais en amenant des questions et en demandant à l'athlète de se projeter. On fait un plan de performance ou un plan de vie après la compète. Et on ne parle pas de la compète. Tu fais quoi en septembre, après les Jeux? Tu fais quoi en octobre? Qui est-ce que tu vas voir en premier? Quel voyage tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu te programmes? Tu as déjà pris tes billets? Ok. Avec qui tu pars? Pourquoi? À quel moment tu reprends le sport? Tu reprends le sport ou pas d'ailleurs? Et comment tu le fais? Enfin, tu vois, on se pose plein de questions pour que l'athlète n'ait plus un grand vide avec un énorme point d'interrogation dans sa tête sur l'après.
Et donc ça c'est l'hypnose qui permet de combler ce vide.
Là ça sera plutôt des techniques d'entretien, ouais. C'est-à-dire que tu vois ça va être vraiment un long temps de questions. Et potentiellement avec l'hypnose ou avec l'imagerie, ce qu'on va pouvoir faire c'est projeter l'athlète dans certaines situations, comme s'il pouvait déjà les tester. Mais d'abord il faut qu'il y réponde. Par exemple, bah voilà, je me vois faire ça, ok. Par exemple avec l'hypnose, derrière on met de l'hypnose où on fait juste un exo de visualisation. Projette-toi. Est-ce que c'est séduisant? Est-ce que cette perspective est engageante? Et peut-être que l'athlète va faire « Ah non, en fait, non, j'aime pas. » Ok. Et on change le plan. Mais on travaille sur l'après. Pour faciliter le deuil. Mais on n'enlèvera pas le deuil. Quand je parle de deuil, je parle de seuil, en fait. Hein. C'est un deuil, on en fait tout le temps. Je finis un livre, je fais le deuil du livre. Ma vie, quand on le ferme, ouais. On fait un deuil. Quand on finit un film, on fait un deuil. Quand on perd quelqu'un, on fait un deuil. Quand on déménage d'une ville à une autre, on fait un deuil. Donc on est rempli de deuil.
C'est triste à dire quand on le dit comme ça.
Alors non, pour moi,
moi je trouve ça. Enfin, il y a un côté beau quand même.
Pour moi, ce que je trouve,
c'est qu'on a vécu quelque chose.
En tout cas, la vision que je voudrais proposer là, c'est une vie finalement réussie est une vie qui est le plus possible rempli de deuil. Je souhaite aux gens d'avoir un maximum de deuil possible. Par contre, je pense pas qu'on fasse un deuil dans le sens, il a fait son deuil. Non, on vit avec. C'est pas un truc qui se termine, c'est un truc avec lequel on décide de continuer d'avancer. Donc, à un moment donné, ta carrière va s'arrêter, par exemple, et tu vas continuer d'avancer. Et ce n'est pas terminé. C'est un seuil, comme une porte. Il y a une autre pièce derrière, laquelle, viens, on la dessine, viens, on la pense avant.
Mais qui construit aussi.
Bien sûr.
Parce que du coup, c'est ça aussi, ce seuil, ou le deuil, comme on dit toujours, déjà, c'est tout est en mémoire.
Ouais.
Mémoire physique, mémoire humaine, je ne sais pas comment le dire.
Humaine, émotionnelle, des souvenirs.
Émotionnelle, tout. Et effectivement, c'est des... il y a ce côté, j'ai appris. C'est une expérience, je me suis construite. Forcément, alors même si c'est après un livre, ça m'a enseigné quelque chose malgré tout, inconsciemment. Exact. Donc je suis une personne aussi qui s'est enrichie d'un seul coup de quelque chose. Donc ça peut être effectivement après par des étapes, par une médaille ou
bien
autre.
Sûr. En fait, en plus derrière l'idée de là que je vous propose, qu'on aborde, c'est l'idée du seuil, c'est une idée de continuité. Souvent, en fait, il y a l'idée de rupture. C'est on va jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et après, rupture. Non, pas rupture. La vie, elle continue. C'est un fil, tu vois. Jusqu'à la retraite, mot terrible, je trouve, qui se traduit en espagnol par... mon accent en espagnol est très mauvais, hein, mais rubilación.
Rubilación.
Ça sonne bien.
C'est donc jubilé.
Ouais. Ah oui,
le jubilé.
En français, on dit ça
donc,
aussi.
Ouais. Moi, en gros, si je devais vivre la retraite, clairement, je préférais aller en Espagne. Parce que ça conditionne énormément la retraite. En se rappelant que nous, on est des animaux sociaux, des mammifères sociaux, et que l'exil était au même niveau que la mort à une époque dans les jugements et dans les punitions. Donc, la retraite... L'exil, c'est pas génial. Mais la retraite n'est qu'un, c'est dans la continuité. Effectivement, comme tu le dis, j'ai vécu des choses, j'ai appris des choses. Ça vient avec moi. C'est pas j'étais champion, je suis personne. Non, c'est je suis. J'étais celui qui a appris, j'étais celui qui a progressé, j'ai celui qui a gagné, j'ai celui qui a gagné plusieurs fois, puis je suis celui qui arrête, mais qui arrête le sport de haut niveau, mais qui continue et qui fait d'autres choses et qui va réussir dans 70 ans, par exemple.
On est comme un train, on prend des wagons au fur et à mesure, et comme on dit, on porte nos bagages tous.
Ouais.
Mais c'est, on peut pas vivre sans ces bagages, ou en tout cas, il faut savoir les accepter aussi.
Ouais.
Et savoir effectivement les transformer pour justement qu'ils soient entre guillemets positifs ou enrichissants.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on est plein de trains.
On est plein de trains. Et puis ça avance. Ouais. Donc,
des conducteurs de train.
Donc là, par exemple, ben pour certains athlètes qui préparent cette compétition qui va avoir lieu historique à Paris, ben, pour certains, on est déjà en train de se dire voilà, il se passe quoi après ? Que tu gagnes ou que tu gagnes pas,
il y aura quelque chose.
Il y a quoi ? Et ouais. Certains sont déjà en plus sur il y aura la préparation pour Los Angeles.
Oui.
Et là, ceux-là, tu sais que ils vont pas avoir beaucoup de pression. Il y a peu de chances qu'ils aient énormément de pression le jour J, parce qu'ils ont déjà admis dans leur tête que c'est un point de passage. C'est voilà. Un beau point de passage. J'ai envie de gagner. Je suis motivé, tu vois.
Mais il y en a un autre.
C'est un point de passage.
Mmh. Est-ce que tu penses que certaines sportifs sont nés pour réussir et d'autres non, ou c'est un truc qui s'apprend, on va dire.
Le goût de la.
Est-ce qu'on est de la lumière de manière innée ou non quoi.
Ah, ouais, moi, je pense qu'il y en a qui sont.
Ouais. Le goût de la gagne et le goût de la réussite, ça prend.
Ouais.
Ça se prend si c'est encouragé, si c'est valorisé. Tu vois le côté papa papa ou maman hein. Regarde ce que j'ai fait. Ouais. T'en vendes pas trop, c'est bon, ouais. C'est qu'un pulse de 10 pièces quoi. Ou alors, génial, t'as fait ça tout seul, t'as fait ça en combien de temps ? T'arrives à le faire en moins de temps ? Encore ? Ouais, j'y retourne. Donc oui, c'est ancré, tu vois.
Et c'est un peu un cliché, mais en France, on dit souvent que dans le sport, on préfère les seconds aux gagnants. Ça a un peu évolué quand même, je trouve, récemment. Mais bon.
Ouais, ça dépend.
Ouais, on a quelques très beaux seconds quand même.
Oui,
moi, celui auquel je pense tout le temps, c'est forcément Poulidor, tu vois. Et mais oui, alors c'est particulier. J'en parlais là il y a pas si longtemps avec des entraîneurs en athlé. Déjà, moi j'aime beaucoup hein, notre maxime française de liberté, égalité, fraternité. Ben égalité, il y a pas en sport. Donc juste avec notre code moral national, il y a un truc qui ne correspond pas tout à fait avec le monde du sport. L'égalité. La fraternité, ben, au moment où il y a de l'adversité, il peut y avoir du respect, mais pas forcément. La fraternité, peut-être que ça devient une limite. Donc on n'a pas dans notre... c'est pas valorisé oui, voilà. Forcément la réussite. Après, des fois, c'est fait dans le système scolaire, mais je pense que ça peut être fait différemment. Tu vois, on valorise les trois premiers, où on donne la meilleure note, la meilleure copie, ben on la donne à la fin et puis tout le monde applaudit.
C'est vrai qu'ils faisaient ça.
Ils faisaient ça des fois
par
à l'école.
Par ordre, on va commencer par les moins bons.
On commence par les moins bons. Okay.
Mais ça, après, c'est pas cool, hein, les enseignants.
Alors ça, c'est pas forcément cool, mais j'ai vu des profs donner et demander des applaudissements uniquement pour ceux qui ont les moins bonnes notes en leur disant vous êtes en chemin, regardez, et toute la classe applaudit. Donc il y aurait peut-être des méthodes, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, ça demande à se poser la question des enseignants, des parents, eux, c'est quoi leur vision de la réussite ? Et encore une fois, pour certains, la réussite, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, bah, tu vois, si t'as grandi avec cette vision-là, bah, numéro 2, c'est pas mal.
Et même parfois, certains sportifs disent que ça les dérange pas de pratiquer un sport qui n'est pas médiatisé, en fait. Ils préfèrent limite être dans l'ombre que leur sport reste, on va dire, dans l'ombre pour ouais. Ne pas être exposé à ça. En fait. Ah, ça arrive. Pas beaucoup, mais bon.
Ça arrive. Bah, tu vois, t'as des vrais passionnés ouais. du sport, mais en même temps, au moment où ils gagnent, le mois dernier, par exemple, il y a l'équipe de water polo qui a fait une très jolie perf.
Sortir de l'ombre. Hein.
Je pense qu'ils étaient contents de sortir ouais. De l'ombre. Et quand les médias en ont parlé, en plus,
oui.
ils ont dit, bah voilà, l'équipe de water polo, mais il n'y a aucun nom de cette équipe qui ont été donnés pour, en tout cas moi, à ma connaissance. On ne les a pas nommés. Je trouve ça dommage. Et je pense que certains se sont dit, bah, on gagne et en fait on connaît pas, on n'est pas reconnu.
Oui, c'est juste c'est le sport qu'on a mis en avant, mais pas effectivement ceux qui ont composé.
Bien sûr, mais après attention, hein, il y a des sports, ils vivent très heureux dans leur microcosme, ils sont pas forcément médiatisés, et même il y a de nombreux avantages à ça.
Oui. Mais justement, il y a un truc que tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est on n'est pas non plus tous égaux, je pense, sur le fait. Il y en a qui la cherchent, cette lumière, cette notoriété, qui ont envie parce qu'on...
Par caractère.
Alors, par caractère, il y a aussi beaucoup pour combler des insécurités.
Aussi, oui.
Bah non, mais après, c'est pas négatif de dire ça, mais on va combler quelque chose, c'est-à-dire qu'on a envie. En général, quand on a besoin de beaucoup d'attention, c'est qu'il nous a manqué quelque chose.
Ou une revanche, sinon, ça peut être.
Ou une revanche. Chacun est guidé par ses propres choses. Mais je pense que tout le monde n'est pas fait, ou ne peut pas, en tout cas, se retrouver du jour au lendemain comme un Kylian Mbappé, c'est-à-dire déjà avec énormément d'argent, mm-hmm. avec tous les regards sur soi, mm-hmm. Être critiqué H24 dès qu'il fait... quand il, par exemple, il loupe un ballon ou autre, c'est extrêmement dur, en fait, à ces moments-là. Mais par contre, on va l'encenser à d'autres moments. Mais voilà, la moindre petite erreur, c'est que d'un seul coup, il y a le monde entier, la nation, qui, par exemple, lui tombe dessus. Personne n'est préparé à ça. Par contre, il y en a, ils vont le chercher, ils ont les épaules, entre guillemets, ou ils ont quelque chose qui fait qu'ils vont réussir à gérer, justement, tout ce que ça englobe autour. Mais il y en a, c'est impossible. Il y en a qui peuvent faire des dépressions, justement, pour ça, parce que cette mise en lumière, ou en tout cas ce côté-là,
bien sûr,
est écrasant pour...
C'est pour ça que le sport de haut niveau, c'est pas juste l'aspect talent, parce que avoir un sportif de haut niveau qui est le meilleur dans son sport, ensemble, mais si c'est pas géré ça...
C'est pour ça que la réussite, elle se prépare. Tu parles de Kylian Mbappé, il a fait un reportage avec Élise Lucet, oui. Où elle lui demande, pourquoi est-ce que vous avez énormément d'argent et tout, pourquoi est-ce que vous pourriez presque payer aujourd'hui. Et il dit l'innocence et l'insouciance, quoi, parce qu'en fait je peux plus sortir de chez moi acheter ma baguette de pain.
Exactement.
Je peux pas sortir avec mes potes, aller dans un bar, les petits plaisirs de tout le monde, moi je pourrais me donner tout mon argent pour vivre pour vivre un peu de
après,
ça de nouveau, quoi.
Pour et du contre, je pense que
non, mais parce que non, mais... avant, alors que précédemment, enfin quand il n'était pas effectivement à cet apogée, je pense que enfin il attendait ce qu'il a aujourd'hui, mais une fois qu'il a ce qu'il a aujourd'hui, et on voit effectivement qu'à côté, mais du coup effectivement, moi, faire mes courses, je me rappelle, parce que ça aussi je l'ai vu, et je me rappelle, je sais plus quelle célébrité l'avait fait, sur que c'était un sportif aussi, il a dû prendre le magasin ou se dire, je sais plus qui c'est qui l'a fait, casino, j'ai plus le nom, mais en gros moi je vais aller faire mes courses, donc je privatise entre guillemets mon supermarché pour avoir ce plaisir de pousser mon chariot.
Ouais.
Mais je trouve ça dingue, en fait. C'est dingue.
Donc ça fait partie des conséquences à anticiper, en tout cas on les anticipera jamais autant, puis j'imagine qu'un athlète comme Kylian Mbappé il se dit ce qui lui arrive n'était pas imaginable. Néanmoins,
même si ses parents ont quand même programmé pour réussir, mais peut-être pas à ce point.
Il le savait sur une de ses interviews, comme il l'a dit. Oui. Mais après, il y a le dire et être.
En fait, ça se manage. C'est vraiment le management de la performance. C'est-à-dire un peu comme une entreprise, en se faisant. Une entreprise va faire un business plan sur 3 à 5 ans. Un athlète, en imaginant les opportunités, les forces, les faiblesses, un athlète pourrait faire la même chose. 3-4 ans avant, se dire, ok, si je fais ça, si ça marche, j'ai envie de m'entraîner pour ça, qu'est-ce que je pourrais plus faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, de quoi je vais être responsable, de mon image par exemple, quand je représente la France, à partir d'un moment je ne peux plus faire n'importe quoi, en tout cas ça peut sortir.
Et du coup, est-ce qu'un athlète qui est d'une timidité maladive ne peut pas arriver au sommet, du coup? Enfin, il peut se soigner éventuellement, mais...
En maladif, tu l'as dit.
Alors c'est le maladif qui est, qui
bah,
est
extrême, un, disons.
Ouais. Timide, extrême.
Il n'est pas athlète dans ces cas-là, je pense.
Il pourrait réussir. La question, c'est quel confort il y aura après, en tant que une fois qu'il aura réussi. Parce qu'il peut très bien réussir, se mettre extrêmement dans sa bulle. Je prends. Autrement que on est un peu moins dans le sport, mais quand même avec des gens qui font des performances incroyables, des échecs. Il y a des personnes. Ah,
grande qui... question, sport ou pas. Mais dites-le nous en commentaire. On fera si un podcast un jour. Sont effectivement du sport pour vous ou pas. Ouais. Moi, personnellement, je le mets dans le sport, mais.
Je vais pas me prononcer.
Donc, il le mettrait dans le jeu.
Et. Mais en fait, en termes de codification.
On va demander à Magnus.
En termes de pour un sport, il faut des compétitions internationales, il faut une fédération, il faut une action motrice.
Il n'y en a pas aux échecs ?
Et en fait,
les échecs, bah oui. Parce qu'il y a un déplacement moteur,
ah, oui,
rentrent dans ces définitions. Je me rappelle dans mes études de STAPS que quand on avait vu la définition de qu'est-ce qu'un sport, qu'est-ce qu'un jeu, on était arrivé déjà, et ça remonte à il y a presque 20 ans, déjà à la conclusion de les échecs, c'est un sport.
Mais tout à fait, et on l'a fait également dans notre premier épisode, le tout premier épisode sur qu'est-ce que le sport. Effectivement, on avait cette problématique avec
on fera un jour un podcast
avec les échecs. Mais on ira chercher quelqu'un. Alors si vous êtes d'ailleurs
un philosophe,
une personne qui joue aux échecs, ouais. Magnus, si tu veux aussi venir, il y a pas de problème, on sera très content. mais voilà, grande question.
Ouais, t'as quelques profs, de fac qui ont planché sur cette distinction, et ça vaut la peine peut-être d'aller les voir aussi.
Mais vraiment. Moi, je trouve ça. Enfin, en tout cas, c'est un bon.
Il y a matière. Il y a débat.
Il y a plus grand débat de.
Mais en gros, ils vont. Dans les échecs, ça demande une espèce de coupure sociale, une absorption totale. Et certains diraient qu'on n'est pas loin de la névrose, ouais. Ou d'une forme d'autisme. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Néanmoins, c'est des personnes, pour certains, effectivement, où ils vont réussir. Mais derrière, la réussite et les conséquences de la réussite, notamment les conséquences sociales, ne vont peut-être pas être si bien vécues que ça. Donc, ils vont rester dans leur bulle, tu vois. Donc, je pense que la timidité ne fait pas partie des freins à la perf. Par contre, c'est à prendre en compte dans l'après, ouais.
D'accord.
Complètement. Après, ce qui peut être un frein à la perf dans l'idée de la réussite, c'est encore une fois le travail sur les valeurs. Je voudrais juste y revenir un petit peu parce que par moment, il y a cette distinction. C'est pas clair entre humilité, audace, respect. Et on peut être humble, respectueux, audacieux et battre le numéro 1.
Et en gros, c'est un peu la question. On peut se demander si je réussis, je vais peut-être changer et ne plus être conforme à mes valeurs. En fait.
Ouais. En tout cas, il faut. C'est intéressant de se questionner sur ses valeurs pour voir. Bah tiens, peut-être que être trop respectueux, tu vois, des fois dans les grands duels ou quand t'as un outsider face à une légende qui est installée depuis un certain temps, l'outsider des fois, il faut le questionner sur à quel point il s'autorise à battre celui qu'il a mis sur un piédestal, d'accord. Tu vois.
Ouais. J'aurais bien voulu poser la question à Alcaraz à ce moment-là.
Ouais. Mais parce qu'il est en train de bouger un géant. En tout cas, un géant. Si dans sa tête, il s'est construit, voire même c'est ce sportif-là qui l'a fait rêver, pour réussir, à un moment donné, il faut qu'il batte son idole.
Et d'ailleurs,
tout en le respectant, tout en ayant l'humilité de se dire... voilà, aujourd'hui, je peux être meilleur, quoi.
Et très souvent, l'effet inverse, c'est que l'idole va en jouer de ça. Il sait qu'il inspire du respect aux plus jeunes, et donc il en joue, et c'est normal, d'ailleurs.
Oui, parce qu'il sait qu'il inspire quoi ? Souvent, de la peur. De la peur de quoi ? De la peur de réussir.
Que lui, il a vécu déjà avant.
Ouais. Donc voilà, ça, c'est pour répondre à ta question tout à l'heure, pour travailler, faire un point sur ses valeurs. Faire un point sur les valeurs qui ne nous appartiennent pas, celles qu'on a peut-être pu entendre, celles qui nous appartiennent et celles qu'on a envie d'incarner. Faire un point sur l'après, faire un point sur les apprentissages, ça nous donne déjà trois bonnes pistes de travail pour s'affranchir de cette peur-là ou en tout cas la dépasser.
Je crois que grâce à toi, on est maintenant paré pour réussir dans tout ce qu'on entreprend. Non ? T'es pas convaincu ?
Ah moi si totalement bien évidemment, mais c'est vrai que c'est toute une question d'anticipation, et c'est marrant quand on revoit, quand on parlait de cette peur de l'échec il y a quelques temps, quand là justement on voit par rapport à la peur de réussir, mais on s'est dit mais constamment en fait on joue avec notre tout ça, c'est un second job de se préparer pour en fait affronter tout ce qu'on peut avoir sans crainte pour certaines choses, de se donner du courage,
ouais, c'est un second job. Après, faut le faut y aller tranquille.
Tout à fait. Il y en a qui se font un peu violence.
Mais faut y aller tranquille. Et en gros, la plupart de nos peurs ne sont que qu'imaginer.
Mais c'est ça.
D'accord.
C'est ça qui est terrible.
Je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, mais notre futur est rempli de scénarios catastrophes verront jamais le jour.
On vous le dit jamais.
mais si je réussis, je vais. Tout le monde va me demander. Il y aura jamais tout le monde qui va te demander ton attention. On est 7 milliards. Mais pas tout le monde.
Je crois qu'on est 8 maintenant, 8 milliards.
Ah ouais. On est 8. Ben voilà, mois de mars, on est 8. Bon.
Mais c'est vrai, on a l'impression qu'il y a tout qui. Alors que non, en fait. Mais c'est là où on a l'impression d'être. Il y a un côté très égocentré aussi sur ce principe. C'est non, là, si je réussis, il va y avoir tout le monde. Non, en fait, les gens, ils ont leur vie, ils font leur truc.
Il y a ça aussi.
On en avait parlé justement de ça. On n'est pas le centre.
Oui. Ouais, ouais.
Et surtout maintenant, on vit dans un monde d'information, on va dire très rapide, où on passe vite aux oubliettes, quoi.
Aussi. Ouais. Aussi.
Oui. Même Mbappé
pourrait passer aux oubliettes après sa carrière rapidement.
Après, il y en a qui rentrent dans la légende.
Oui, bien sûr, mais bon.
C'est différent. Mais en fait, il y en a toujours qui vont venir remplacer, qui vont venir continuer, pardon, parce qu'on remplace pas une légende, mais qui vont venir continuer. Et c'est juste, ils auront fait partie d'une ère, d'un moment. En fait.
Ah ouais. C'est moi, j'ai un exemple ça va faire un peu polémique, je pense.
On adore.
Mais un exemple d'athlète qui a gagné et puis qui a une bonne réussite, pour moi, c'est Schwarzenegger.
Oh.
Parce qu'en fait, en tant qu'athlète, après, on aime, on n'aime pas, on cautionne pas, mais il a tout gagné. Okay. Puis après, il a été acteur numéro 1, mieux payé à Hollywood, alors qu'il parlait avec un accent à couper au couteau et qu'on lui disait « il n'y arrivera jamais ». Puis en fait, c'est avec son accent que c'est passé. Il a été le mieux payé, était au top du cinéma. On aime, on n'aime pas encore, c'est autre chose. Et puis après, il a été gouverneur de la Californie. C'est un des derniers postes. S'il était né aux États-Unis, il aurait concouru pour la présidentielle.
Mais bien sûr.
Il
aurait été capable de l'avoir.
Donc, il a gagné dans 3 domaines différents. Mais c'est bien parce qu'en fait, quand il s'est dit « cette carrière-là est terminée, ma vie n'est pas finie ». Et du coup, c'est athlètes qui arrivent à faire ça. Ceux d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément l'Arnold Schwarzenegger qui avait été bodybuilder. Oui. Mais par contre, ils connaissent dans ses films. Si on se rappelle de lui, on se rappellera de lui dans différents moments de sa vie. Est-ce qu'il a réussi sa vie ? Seul lui pourra répondre à cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inspirant ? Oui, je pense. Qu'en fait, c'est un continuum, le parcours.
Il a toujours réussi effectivement à faire de grandes choses. C'est vrai que c'est un bel exemple et c'est pareil. Et comme on disait aussi, c'est qu'il y a des personnalités qui marquent certaines générations. Par exemple, nous, on est d'une certaine génération. Mbappé, il marquera sur une génération aussi qui est un petit peu celle qui est en dessous de nous. Même si il marque bien évidemment la nôtre aussi. Mais voilà, on a Zinedine Zidane, par exemple.
Voilà.
Et pourtant, on n'oublie pas. Mais voilà, c'est une continuité.
Ouais. Et après, il y a autre chose. Donc,
jusqu'à notre dernier souffle.
Ce que vous avez envie de réussir, dites-vous que ce n'est pas la fin. Continuez, qu'il y a autre chose derrière. Préparez-le. Projetez-vous sur la suite. Et puis, tentez d'être le mieux possible pour réussir. Et puis sinon, il y aura encore un peu de temps derrière pour continuer.
Tout à fait. Et soyez heureux également et pensez à vous. C'est un bon point. Et nous, on a aussi envie de réussir. Donc, n'hésitez pas en tout cas à partager en tout cas vos impressions. Est-ce qu'on a peur? Je pense qu'inconsciemment, on a tous un petit peu ce côté-là. Autant la peur de l'échec, bien évidemment, et cette peur de réussir. Sauf que nous, on a Jonathan, donc on est prêt. C'est la différence.
Voilà, c'est ça. On a une carte maîtresse, nous.
Exactement. Il est là. C'est notre joker. Ouais. Mais donc, n'hésitez pas, en tout cas, à nous donner un peu vos impressions. On adorait effectivement vous lire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. On vous a mis également en description toutes les informations pour tous les réseaux, en tout cas, de Jonathan, également de IPM, où il est directeur et formateur. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était notre dernier point sur, en tout cas, ces freins à la performance.
Ouais.
Comme on le disait, c'était notre dernier épisode par rapport à ça. Mais vous inquiétez pas, on vous réserve encore plein d'autres choses.
Il y a encore des thématiques
pour,
qui arrivent.
Les mois suivants.
Ben oui.
Merci beaucoup, en tout cas, Jonathan.
À bientôt.
À très vite. Salut à tous.
Salut à tous.